Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
8h, c'est toute l'actualité en direct et c'est avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
La peine est à la hauteur de nos souffrances. Les proches d'Alexia soulagés.
Jonathan Daval est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour avoir tué sa femme en octobre 2017. Les parents d'Alexia espéraient davantage de réponses pendant ce procès ultra médiatisé, mais voulaient surtout que leur ex-gendre soit reconnu coupable. Vous entendrez d'ailleurs l'entretien qu'a accordé à RTL Isabelle Fouliot, la mère de la victime. Ce sera tout à l'heure à 8h50. 25 ans de prison, c'est moins que ce que réclamait l'avocat général qui lui avait demandé la perpétuité. À l'énoncé du verdict, hier, l'accusé n'a pas bronché. Et à la sortie, ses avocats, dont maître Ornelas Patafora, se sont dit satisfaits.
La décision, nous l'acceptons. Nous avons pu travailler dans de bonnes conditions et donc nous ne ferons pas appel de cette décision qui a été rendue ce soir. Jonathan, c'est comme nous. Il accepte également cette décision qui a été rendue par la cour d'assises. Vous l'avez vu pendant ces 6 jours de procès. Vous savez la manière dont il s'exprime. On lui a suffisamment reproché. Donc voilà, il était conforme à la posture qu'il a eue. Habituellement. On n'a pas échangé, on l'a laissé s'il y avait un temps qui devait être consacré, c'était avec sa famille et personne d'autre. C'est une décision qui est satisfaisante, voilà. On a donné ce qu'on avait à donner dans le cadre de ce procès. Maintenant, on n'a pas de regrets.
Maître Spatafora avec Samuel Goldschmidt pour RTL. Pas d'appel du côté de la défense, donc seul le parquet peut décider de le faire. Mais les parents d'Alexia, on le disait, souhaitant tourner la page, il ne devrait pas y avoir de second procès.
Remonter le moral des troupes, cela pourrait être la tonalité du discours d'Emmanuel Macron. On le rappelle, ce sera mardi soir.
Si le président de la République ne compte pas annoncer un déconfinement total, il devrait tenter d'apporter davantage de clarté. Un cap, selon le journal du dimanche. Savoir où l'on va, c'est exactement ce qu'attendent les commerçants qui ont dû à nouveau fermer. Certains d'entre eux pourraient rouvrir aux alentours du 1er décembre, si l'on en croit le Premier ministre Jean Castex. Manon Saint-Yves, gérante d'une boutique de prêt-à-porter dans le Pas-de-Calais, espère vraiment, vraiment être concernée, car il y a urgence.
C'est une catastrophe parce que clairement aujourd'hui on fait zéro. Je fais des livraisons, je fais tout ce que je peux, mais en soi ça ne sauve pas mon commerce aujourd'hui. J'ai ouvert le 5 octobre 2019 et en fin de compte en même pas un an j'ai 2 confinements. C'est pas comme ça que je vais pouvoir réussir dans ma vie. Je réfléchis même à d'autres projets parce que oui c'est inquiétant pour la suite oui. J'ai investi quand même tout mon argent et c'est surtout les charges fixes qui font que là c'est en train de partir de ma trésorerie puisque je ne fais pas de chiffre d'affaires. Je pense qu'on va réouvrir de toute façon que ce soit le 27 ou le 4 ou le 3 qu'on ouvre pour faire des Black Friday, du chiffre j'en ai pas fait, donc il va falloir en plus de ça que je fasse des soldes. Ben ouais, enfin à un moment on va jamais s'en sortir quoi.
Des propos recueillis par Antoine Decarne à Arras pour RTL. Allocution ou pas, certains professionnels ont décidé de miser sur des fêtes de Noël à peu près normales. Exemple à Pau, avec un spécialiste du saumon fumé que vous avez rencontré pour RTL, Denis Grangeau.
Oui, depuis plus de 30 ans, dans son laboratoire à la température quasi polaire, Jean-Marc Casté, aidé aujourd'hui par ses 3 enfants, prépare le saumon pour les fêtes. Il a même inventé un procédé unique de fumage et pour lui, pas question de ralentir la cadence.
La Noël, le 25, comme on dit chez nous, les carottes sont cuites. Quoi. Donc, on n'a plus que, dès que. Si on attend les décisions du 1er décembre du gouvernement, ben on sera en retard. On fait par jour ce que l'on fait par semaine en chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas se permettre de louper la Noël. Donc, on fonce.
Entre 2 aiguisages de ses longs couteaux à lever les filets de saumon, le discours est le même pour sa fille, Marie-Sophie.
Ah oui, bah après, je pense, comme a dit mon père, de toute façon, on part du principe qu'on va partir sur les mêmes bases que l'année dernière. Après, on va croiser très fort les doigts en espérant que les gens puissent, même s'ils font Noël d'une autre façon, qu'ils aient envie de consommer du saumon, et surtout le nôtre.
Malheureusement, ils ne peuvent plus aller au resto, ils ne peuvent plus aller au ciné, ils ne peuvent plus aller au théâtre. Bon, ils font des économies et on espère qu'ils vont se lâcher sur les bons produits comme le nôtre.
Entre novembre et la fin décembre, Jean-Marc et ses enfants vont travailler près de 12 tonnes de saumon.
Le reportage de Denis Grangeau à Pau pour RTL.
Agnès, la proposition de loi sur la sécurité globale provoque toujours la colère.
Paris, Marseille ou encore Montpellier, environ 20 000 personnes ont encore manifesté hier. Le texte prévoit un cadre plus restrictif pour la diffusion de certaines images. De nombreux journalistes y voient une atteinte à la liberté d'informer. Mais il n'y a pas que ce fameux article 24 qui pose problème, explique Félix.
Cet article 24, il est fondamental. Il y a aussi un risque qu'il apparaisse un peu comme un chiffon rouge. Il concentre une grande partie de l'attention, mais derrière, dans ce texte, il y a tout un tas d'autres dispositions extrêmement problématiques qui font un peu moins débat, et c'est dommage, notamment sur la légalisation de l'usage des drones dans le cadre des politiques de sécurité, notamment dans la surveillance des manifestations, les caméras piétons qui sont légalisées et reliées désormais au centre de commandement des forces de police pour faire de la reconnaissance faciale et de l'identification biométrique. Et donc c'est tout ça qui pose problème. Et en fait, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est le retrait de cette loi et le fait de porter un coup d'arrêt à la dérive autoritaire de ce régime et de ce gouvernement.
Des propos recueillis par Hugo Hamelin dans le cortège marseillais. Ce ne sera pas un crime, comme le réclamait la Convention citoyenne, mais un délit d'écocide va bel et bien être créé dans le code pénal. Pour les atteintes les plus graves à la planète, des peines allant de 3 à 10 ans de prison pourront être prononcées, tout comme des amendes de 375 000 à 4,5 millions d'euros.
Merci de votre fidélité. Il est 8h06 en ce dimanche matin. Vous restez bien là. Dans un instant, Agnès Bonfillon revient pour la suite de l'actualité. Nous irons aux États-Unis où Donald Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite à la présidentielle. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Et la suite du journal avec Agnès Bonfillon à 8h08, direction les États-Unis où Donald Trump fait presque comme si de rien n'était.
Le président américain ne reconnaît toujours pas sa défaite à l'élection. Il sait que le jour où il le fera, il faudra qu'il s'acquitte de très très grosses dettes. Alors selon le Washington Post, il serait en train de réfléchir à une façon de se remettre à flot financièrement, Karine Noten.
Donald Trump a d'abord voulu savoir quels étaient les tarifs actuels sur le marché des conférenciers. Barack Obama demande jusqu'à 400 000 dollars pour un discours, soit l'équivalent d'une année de salaire de président. Mais c'est Bill Clinton qui détient la palme pour ce service, 750 000 dollars. Dans son prochain business plan, le président Trump, qu'on s'est ruiné après cette campagne, pourra aussi écrire de nouvelles mémoires, alléché par le record de 60 millions de dollars d'avance qu'Obama a touché pour le tome 1 de son autobiographie, paru la semaine dernière. Autre source de revenus, les médias. Netflix a déroulé le tapis rouge au couple Obama. Donald Trump abandonne finalement l'idée de lancer sa propre télévision. Trop de travail. Mais il a un atout auprès des diffuseurs. Une audience de 89 millions d'abonnés sur Twitter et la moitié des républicains qui le croient lorsqu'il clame que l'élection a été truquée. Enfin, il a confirmé à ses proches qu'il annoncerait d'ici la fin de l'année se représenter en 2024.
Karine Noten aux États-Unis pour RTL. Sachez que cette nuit, les autorités ont autorisé en urgence le traitement aux anticorps de synthèse contre le Covid-19 aux États-Unis. Hein. C'est ce qui avait été utilisé pour soigner Donald Trump, justement.
On en vient à Agnès au rugby. Il n'y aura pas de supporters à Murrayfield cet après-midi.
Les hymnes retentiront dans un stade vide, effectivement, à Édimbourg. Covid oblige. Le 15 de France affronte l'Écosse en deuxième journée de Coupe d'automne des Nations. Et les Bleus devrait briller. Notre consultant Christophe Dominici en est certain.
Quand on voit le niveau de l'équipe de France et ce qu'elle a affiché depuis le début de l'année, je pense que les Écossais vont prendre une belle secouée. La ligne directive, les entraînements passent bien, le discours des coachs passe très bien. Donc on peut tourner, on a un vivier très important en équipe de France. Donc à mon avis, il ne va pas avoir de match. Alors c'est sûr que de jouer sans public, les joueurs peuvent être frustrés, mais on s'aperçoit que ça réussit bien à l'équipe de France, puisqu'elle a joué déjà deux matchs à huis clos, avec deux splendides victoires. Je pense qu'on a les armes pour faire un grand match.
Ah, vous auriez aimé jouer à Murrayfield sans public, hein?
Effectivement, j'aurais aimé essayer de jouer sans public et de voir ce que ça fait. Alors là, il ne va pas avoir de kilt, il ne va pas avoir de supporters, mais ça va être un merveilleux match de rugby.
On a hâte, c'est à 16h15 ce match de rugby. Christophe Dominici était avec Jean-Michel Rascol. En foot, la soirée fut compliquée pour Saint-Etienne. Défaite 4-1 à Brest et c'est quand même la 7e fois d'affilée pour les Verts. Suite de la 11e journée ce dimanche avec en match de clôture Lille-Lorient à 21h et c'est à suivre dans RTL Foot. 5 médailles d'or en 4 jours. Décidément, les judokas françaises brillent au championnat d'Europe à Prague. C'est une véritable radia. Hier, ce sont Romane Dico et Madeleine Malonga qui ont rempli la besace bleue.
Chapeau à elle. Merci beaucoup Agnès Bonfillon. À tout à l'heure, 9h. Vous nous parliez ballon rond il y a quelques instants. Eh bien, on joue les prolongations, vous le savez, le dimanche matin avec Christian Olivier.